Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Une nouvelle tuerie de masse dans un établissement scolaire aux États-Unis et à défaut d'un débat national, peut-être enfin un débat au Texas où il est si facile de porter une arme. Nous serons en ligne dans un instant de Washington. Le Parlement régional de Catalogne défie de nouveau Madrid, son président, en s'entourant de ministres soit emprisonnés en Espagne, soit en fuite à l'étranger. Les francs-maçons interdits de gouvernement en Italie, si l'on se fie au projet de programme commun écrit par le mouvement 5 étoiles et la Ligue, l'extrême droite, précision d'Olivier. Et Tosserie. Nous nous rendrons enfin dans le nord de la Russie, dans le port de Mourmansk, où ont été mises à l'eau la première centrale nucléaire flottante au monde. Greenpeace parle d'un Titanic nucléaire. Une nouvelle tuerie de masse dans une école aux États-Unis. 10 morts hier dans un lycée de Santa Fe au Texas. Le tireur est un élève de 17 ans qui a fini par se rendre à la police. Incroyable statistique. Depuis le début de l'année aux États-Unis, c'est la 22e fusillade en milieu scolaire. Il y a plus d'élèves tués dans leur école ces derniers mois que de soldats. C'est d'ailleurs la une du New York Daily News ce matin. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Mathieu.
Grégory, vous êtes en direct de Washington. Est-ce que ces chiffres font réfléchir, par exemple, au Texas, un État connu pour être particulièrement permissif en matière de port d'armes ?
Alors oui, il y a bien un débat lancé par le vice-gouverneur du Texas, le républicain Dan Patrick, mais pas sur les armes, non sur le nombre de portes que les écoles doivent avoir dans les écoles. 8000 établissements scolaires au Texas, c'est trop d'entrées possibles, dit cet élu. Alors il faudrait peut-être, affirme-t-il, limiter les accès et mieux surveiller l'entrée des bâtiments scolaires pour mieux en assurer la sécurité. Cet argument, on l'a déjà entendu du côté de la NRA, le puissant lobby pro-armes, et aussi du côté de la Maison-Blanche, où la sécurisation des écoles est devenue une priorité depuis le massacre de Parkland en Floride en février. Alors vous l'avez dit, le Texas, État particulièrement permissif en matière de port d'armes, possibilité d'acheter un fusil dès l'âge de 18 ans, un pistolet à partir de 21 ans, possibilité de porter son arme chargée dans la rue, très peu de contrôle des antécédents. Dans cet État, 172 écoles autorisent leurs enseignants à être armés. C'est d'ailleurs aussi une proposition faite par le président Trump. Hier, le tireur de Santa Fe avait deux armes sur lui, un fusil Remington et un pistolet de calibre 38. Tous les deux empruntés à son père. Les deux armes avaient été achetées légalement.
Justement, Grégory, un mot encore sur le profil du tueur. On en sait plus ce soir ?
Alors, un jeune homme de 17 ans, élève dans ce lycée de Santa Fe, membre de l'équipe de football, pas de casier judiciaire, discret, timide, mais parfois étrange. Ses camarades se souviennent qu'il portait quasiment tout le temps un long manteau noir. Sur les réseaux sociaux, les enquêteurs ont retrouvé des signes annonciateurs de son geste, la photo d'un t-shirt sur lequel est écrit « Né pour tuer », mais aussi des insignes militaires, des signes religieux, des emblèmes suprémacistes. L'adolescent avait préparé ce massacre. Les enquêteurs ont retrouvé aussi un journal dans lequel il détaille ce qu'il comptait faire. Il avait notamment prévu de se donner la mort, mais il a été interpellé. Détail troublant, le tireur a expliqué aux policiers que lors de la tuerie d'hier, il a épargné certains élèves qu'il aimait bien, je cite, afin qu'il puisse ensuite raconter ce qui s'était passé.
Merci à vous, Grégory Phillips, en direct de Washington. Un casus belli à l'espagnol, dans le fraîchement élu à la tête du gouvernement régional de Catalogne, a en effet publié un décret sur lequel figure la composition de son exécutif et l'on y trouve deux anciens ministres emprisonnés et deux autres exilés. Madrid risque fort de ne pas lever la tutelle sur Barcelone. Bonsoir Marie-Hélène Ballestero.
Bonsoir.
Vous êtes justement à Madrid, à l'instant, le Parti populaire parle de provocation.
Oui, tout à fait. Finalement, Quim Torra l'a fait, malgré les avertissements, comme vous le disiez, du gouvernement central de Mariano Rajoy. Eh bien, le nouveau président catalan persiste et signe. Alors, sur les 14 conseillers du gouvernement régional, comme vous le disiez, deux sont actuellement incarcérés près de Madrid, en détention provisoire depuis plusieurs mois. Et puis, deux autres sont activement recherchés par la justice espagnole. Ils sont en Belgique après avoir fui avec l'ancien président régional Puigdemont. Les quatre ont en fait été nommés au même poste qu'ils occupaient pendant la 11e législature, pendant le gouvernement de Puigdemont. Quim Torra souhaite ainsi restituer ce gouvernement régional qui avait été suspendu fin octobre lorsque la Catalogne fut mise sous tutelle. Mais cela ressemble en fait à une nouvelle provocation. Le bras de fer avec le gouvernement central devrait se prolonger. L'opposition a d'ailleurs durement critiqué ce nouvel exécutif catalan qui ne va pas permettre à la Catalogne d'avancer. passé. La formation Ciudadanos parle d'un gouvernement rebelle et appelle Mariano Rajoy à prolonger la mise sous tutelle de la Catalogne. Rappelons que cette mise sous tutelle devrait être levée dès que les conseillers pourront être investis et que le nouveau gouvernement catalan pourra réellement gouverner. Or, ces 4 conseillers incarcérés ou à l'étranger ne pourront pas être réellement investis mercredi prochain. On voit mal le juge Pablo Llarena leur permettre de sortir de prison ou de revenir en Espagne pour prêter serment. Alors la mise sous tutelle de la région pourrait donc être bien prolongée par Madrid.
Merci à vous, Marie-Hélène Ballesteros, en direct de Madrid. L'église catholique croate avait battu le rappel. Les détracteurs de l'interruption volontaire de grossesse ont défilé par milliers cet après-midi dans les rues de Zagreb, Split et Rijeka. Saisie par de puissantes associations catholiques, la Cour constitutionnelle avait confirmé le droit à l'avortement l'an passé, tout en demandant à ce que le texte obsolète soit réécrit. C'est ce temps de la réactualisation du texte qu'exploite l'église croate pour peser dans le débat politique. La botte italienne n'est pas loin et les relents venimeux d'un passé pas si lointain non plus d'un passé fasciste. Il faut pour ce faire lire in extenso la tentative de synthèse entre les deux professions de foi du mouvement 5 étoiles et de la Ligue, l'extrême droite. Les deux formations sont en effet tombées d'accord pour interdire l'entrée au gouvernement des francs-maçons. À Rome, les précisions d'Olivier Tosseri.
Si la Ligue et le mouvement 5 étoiles sont très vagues pour expliquer comment ils financeront leur programme, ils sont en revanche très précis pour dénoncer leurs ennemis. Parmi ceux du mouvement 5 étoiles, à qui pourrait échoir le ministère de la Justice, figurent les francs-maçons. Ils ont ainsi introduit dans le programme, qui devrait être adopté par le futur exécutif, un code éthique. Toute personne condamnée au pénal ou qui est sous procès pour de graves crimes ne pourra évidemment pas entrer au gouvernement, mais l'interdiction est étendue également aux membres de la franc-maçonnerie. Certaines loges ont en effet été à l'origine de scandales qui ont ébranlé les institutions italiennes au cours des précédentes décennies. Pas de quoi néanmoins prendre pour cible la franc-maçonnerie. Ses membres jurent solennellement fidélité à la République italienne et s'engagent à respecter les normes et les lois, a immédiatement réagi le Grand Orient d'Italie. Il crie à une discrimination anticonstitutionnelle rappelant les lois fascistes. Plus que Mussolini, c'est Robespierre, surnommé l'incorruptible, qui inspire le mouvement 5 étoiles. Il veut introduire une législation anticorruption sévère et incisive avec l'introduction d'agents provocateurs pour tester l'honnêteté des fonctionnaires.
Il est 18h07, vous écoutez le journal de France Culture. Cet après-midi, le spécialiste français de l'énergie, Engie, annonce qu'il va se désengager de ses activités d'ingénierie en Iran sans attendre les sanctions américaines. Voilà qui résonne avec la perplexité de l'Iran après la visite à Téhéran du commissaire européen à l'énergie au chevet des entreprises du vieux continent. Plein de bonne volonté, il n'aurait ni rassuré ni convaincu son hôte. Siavosh Ghazi est à Téhéran.
La balle est dans le camp de l'Union européenne, a déclaré le vice-président iranien Ali Akbar Salehi, qui dirige le programme nucléaire de Téhéran. Monsieur Kanete nous a présenté verbalement un certain nombre de propositions et de mesures destinées à contrebalancer la décision américaine et nous espérons qu'elles vont se concrétiser, a ajouté le responsable iranien. Le commissaire européen est le premier responsable occidental à venir à Téhéran depuis la décision américaine de se retirer de l'accord nucléaire et de réimposer des sanctions économiques contre l'Iran, mais aussi les sociétés non américaines qui veulent travailler dans le pays. Monsieur Kanete a expliqué que le paiement du pétrole iranien se fera en euros via les banques centrales européennes à la banque centrale iranienne pour éviter les sanctions américaines. L'Iran exporte 20% de son pétrole vers l'Europe et plus de 70% vers la Chine et les autres pays d'Asie. Mais d'ores et déjà, plusieurs entreprises européennes, notamment le groupe pétrolier français Total, ont annoncé qu'elles vont cesser leurs activités en Iran à moins d'obtenir des dérogations. En tout cas, Ali Akbar Salehi a indiqué que l'Iran pourrait reprendre son programme d'enrichissement d'uranium et sortir de l'accord nucléaire, faute de garanties sérieuses de la part des Européens.
Lyric, le PDG du conglomérat russe Rosatom, lance dans la rade du port de Mourmansk. J'espère qu'aujourd'hui sera un jour symbolique pour l'Arctique. Alexis Katchev, fier d'avoir supervisé la construction de la première centrale nucléaire flottante au monde, un Titanic nucléaire, un Tchernobyl sur glace, selon Greenpeace. Claude Brouillot nous appelle de Moscou.
Les prouesses technologiques n'effacent pas, loin s'en faut, les inquiétudes. Les responsables de Rosatom, l'organisme public qui régit la production d'énergie nucléaire en Russie, a beau assurer que l'académique Lomonosov, nom donné à la centrale flottante, offre toutes les garanties de sécurité, les ONG, au premier rang desquelles Greenpeace, tirent déjà la sonnette d'alarme. Plus d'un an avant sa mise en service, au nord du cercle arctique, les risques de décrochage de la centrale tirée par des remorqueurs ou la question des déchets nucléaires qu'elle produira immanquablement sont pour l'instant minimisées par les autorités russes. Selon elles, cette première unité de production nucléaire mobile ne présente pas davantage de danger qu'un brise-glace à propulsion nucléaire. Et surtout, elle rendra de plus grands services en alimentant à la fois les populations autochtones éloignées des centres urbains de l'extrême est de la Russie, mais aussi et peut-être surtout de façon beaucoup plus efficace et économique les plateformes pétrolières qui se développent dans l'Arctique. Enfin, argument largement souligné par les officiels russes, cette première centrale nucléaire flottante permettra à elle seule d'économiser 50 000 tonnes de CO2 par an.
L'information vient d'être confirmée par le parquet. Un Burkinabé de 32 ans est décédé vendredi soir à Pau, roué de coups en pleine rue par une bande d'adolescents, selon des témoins auditionnés par la police. L'agression s'est produite aux alentours de 19h dans un quartier populaire de la ville où résidait la victime. Quelques mots de la météo de demain. Un temps qui tourne à l'orage sur le sud et l'est du pays, malgré de belles éclaircies. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau à la technique Jean-Frédérix.